Eh bien, Philippe, une semaine s'est passée. J'espère qu'elle a été bonne pour vous.
Et oui, tout à fait, où on recevait donc Pierre Aragon pour la librairie Le Vent des Mots. Et puis
Voilà.
aujourd'hui, on va partir. Alors, on va pas être très loin, parce que Le Vent des Mots, c'est à Lannemezan. On
Oui.
va pas partir très loin de Lannemezan, hein. On va rester avec un auteur qui est pas très loin de Lannemezan, puisqu'il est dans les Comminges. Hein. C'est
Oui.
vrai qu'une fois qu'on passe Lannemezan par l'autoroute, le temps de freiner, ben on arrive dans les Comminges. Hein. Et on va recevoir aujourd'hui un auteur que l'on a déjà eu, Grégory Chanfraud, pour Gaskings, Les Vikings en Gascogne, préfacé par Joël Supéry, c'est aux éditions du Net. Bonjour Grégory Chanfraud.
Bonjour Philippe, bonjour
Bonjour.
Diego.
Alors Grégory Chanfraud, vous êtes un authentique Comminjois.
Oui, en effet.
Vous êtes fier de l'être. Vous
Tout à
l'avez dit la
fait.
dernière fois, je pense que la fierté n'a pas diminué depuis la fois.
Bon, il n'y a pas de raison.
Il n'y a pas de raison, effectivement, que ça diminue. Mais vous écrivez beaucoup sur la Gascogne, sachant que normalement, les frontières de la Gascogne s'arrêtaient aux frontières du Comminges.
Oui, plus ou moins.
Plus ou moins, hein.
On peut déborder sur l'Ariège jusqu'à Saint-Nizier même.
Et je vais d'abord lire la quatrième de couverture de ce roman, puis j'en dirai un mot pour l'accroche après, au tout départ, parce que le début du roman de Grégory Chanfraud se déroule dans un endroit que je connais extrêmement bien.
D'accord, vous nous expliquerez tout à
Je
l'heure.
vous expliquerai tout à l'heure. En l'an 879, des flambeaux viennent éclairer la grande porte de Saint-Bertrand de Comminges. Valens, un adolescent local, va ce soir-là voir son destin totalement basculé après s'être retrouvé face à d'inattendus visiteurs, les Vikings. Avec courage et détermination, le jeune Gascon Comminjois va survivre à de multiples batailles et vous fera traverser une ère viking totalement méconnue dans le sud-ouest de la France médiévale et par-delà les mers. Alors le début de votre roman, Grégory Chanfraud, je le dis, hein, il se situe dans un endroit, je vais lire la première phrase. Hein. Bataille de Thalès en 1982. Alors certains disent Thalers. Nous, on dit Thalès, je vais expliquer pourquoi. Hein. Thalès, c'est le village natal de ma mère. C'est le village où sont enterrés mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, mon arrière-arrière-grand-mère, mon arrière-arrière-grand-père. Donc, c'est le Marensin. Il faut savoir que ce pays-là dont vous parlez, c'est le Marensin. Il y a le Born, le Marensin, le Marsan, le Tursan. C'est le pays de ma maman. Et votre roman, quand j'ai lu la première page, j'ai dit, mais nom de Dieu, ça se
Ne
déroule dans le village
jurez
de ma
pas, ne
mère.
jurez pas.
Voilà, je ne jurerai pas, vous avez raison, Diego Arrabal, mais cette bataille de Thalès, moi je la connais, j'ai 58 ans aujourd'hui, je la connais depuis que je suis ado, puisque des recherches avaient été faites à l'époque, on avait retrouvé donc notamment un hôpital qui servait pour les Compostellans, qui passent effectivement par Thalès, puisque voilà, le chemin de Compostelle est connu à Thalès depuis donc plus de 1000 ans, et on a notamment la source Sainte-Trope, hein, et Sainte-Trope est le saint de Thalès, qui veille effectivement donc sur toutes les paroissiennes depuis bien longtemps. Vous, Grégory Chanfraud, alors je l'ai dit, vous êtes Comminjois. Par contre, dans le précédent roman pour lequel on vous avait reçu, vous nous aviez déjà effectivement parlé des Gaulois, et aujourd'hui vous nous parlez des Vikings. Pourquoi cette passion pour ces gens qui ont occupé les lieux, donc à l'époque vous avez parlé des locaux, et là de ces envahisseurs.
Ben déjà parce que ce sont des civilisations disparues, mais qui ont laissé des traces.
Donc elles ne sont pas si disparues que ça finalement.
Oui, enfin leur mode de vie est disparu.
Leur mode
Après,
de vie est
leur mode
disparu.
de vie, leurs croyances sont
Sont
disparues.
disparues, mais il reste des.
Mais il reste effectivement des vestiges. Après, c'est surtout pour les Gaulois. Après, pour les Vikings, sur ce livre-là, je m'appuie sur les recherches de Joël Supéry. Donc, qui est je le précise, le seul vikingologue, si on peut l'appeler comme ça, qui traite sur les invasions vikings en Gascogne.
Ça veut dire, quand vous dites que c'est le seul vikinologue, ça veut dire qu'il y a très peu de travaux qui ont été faits, des travaux universitaires, je pense notamment,
Alors.
sur la présence des Vikings donc en Gascogne, qui ont remonté, vous le dites dans votre roman, la Garonne, notamment. Sans doute peut-être aussi, alors à l'époque, on ne savait pas trop où était l'Adour, puisque l'Adour a été détournée hein, par Louis de Foix postérieurement donc à l'invasion des Vikings. On ne sait pas trop quelle était la dimension du fleuve à l'époque, mais il est possible aussi qu'il soit passé par toutes les entrées hein, qui permettaient de rentrer, donc bien entendu la Garonne, mais peut-être aussi l'Adour, et de remonter le cours de l'Adour jusqu'au moment où c'était navigable, et puis après même de passer de la marine à l'infanterie, quoi.
Alors, sur ce sujet-là, Joël Supéry serait beaucoup mieux placé que moi pour vous en parler, puisque je précise, donc, mon livre est un roman historique inspiré, je précise bien inspiré, par les recherches de Joël Supéry et par ses conclusions. Ce qui veut dire que je n'ai pas repris ses conclusions à la lettre, mais j'ai refait la chronologie à travers le livre, la chronologie du passage des Vikings sur notre Gascogne. Et pour ce qui est de la Dour, oui, il m'a déjà précisé ça, puisque Joël Supéry et moi nous sommes rencontrés, évidemment, avant que j'écrive ce livre, avec sa permission. Il vous en parlerait beaucoup mieux, puisque, en effet, il m'en a parlé, que la Dour n'était pas à la même place, et ça avait justement son importance dans cette histoire.
Et oui, parce qu'il y avait notamment, on le sait, hein, la Dour a creusé le gouffre de Cap-Breton, jusqu'à 4 km de profondeur, et donc il y avait un débit qui était énorme, ce qui veut dire que quand il y avait des marées, ben, on pouvait profiter effectivement du mascaré pour pouvoir remonter très très loin. Hein, et on ne sait pas si la dimension était équivalente à celle de la Gironde ou moins, mais on sait qu'il y avait un volume effectivement qui était à l'époque, qui était énorme. Donc Grégory Chanfraud, Gaskings, les Vikings en Gascogne. Pourquoi avoir écrit ce roman, donc, à un moment donné, sur cette rencontre entre ce jeune Gascon comme un joie et les Vikings? Qu'est-ce que vous avez cherché à faire à travers ce roman?
Alors, je rejoins là-dessus, encore une fois, Joël Supéry, dans le fait que cette période de l'histoire est blanche. Elle est blanche, et notamment en Comminges. Vous allez sur n'importe quel site, je ne vais pas faire la pub à quiconque, un Wikipédia, une bêtise. La page est blanche. La période nommée par Joël Supéry est blanche.
Il n'y a pas eu de roman. Comment vous expliquez ça? Un manque d'intérêt?
Par ce livre.
Par ce livre.
La réponse est dedans. Joël Supéry a peut-être raison ou pas, je ne sais pas. Mais alors, pourquoi j'ai écrit ce livre? Déjà parce que j'ai lu son ouvrage nommé « La saga des Vikings, une autre histoire des invasions ».
Qui est publié chez Autrement, voilà, aux éditions Autrement, avec une préface de Michel Onfray, quand même.
Oui. Donc j'ai lu ce livre et j'ai été surpris, fasciné. Et j'ai souhaité rencontrer Joël Supéry, ce qui s'est passé. Nous avons déjeuné ensemble, j'ai eu ma mini-conférence tout l'après-midi à domicile, c'était génial. Et voilà quoi. Donc, et le livre est né après avec sa permission.
Alors, ce qui est intéressant dans le livre de Joël Supéry, c'est qu'il y a un sous-titre, La saga des Vikings, mais surtout une autre histoire des invasions.
Oui.
Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il apporte un regard effectivement qui peut être différent, que vous reprenez à un moment donné dans votre roman, où on voit cette confrontation qu'il y a à un moment donné entre l'envahisseur et, alors forcément, l'envahisseur quand il arrive, le but c'est d'envahir, de détruire, de piller. Et puis ceux qui sont là, ils n'ont pas envie qu'il y ait d'envahisseurs, ils n'ont pas envie d'être pillés, ils n'ont pas envie d'être détruits, ils n'ont pas envie culturellement de ne plus exister. Donc on a notamment cette fameuse bataille de Talé en 982, alors, qui d'après les historiens a été, moi il y a une quarantaine d'années de ça, j'avais croisé donc un historien lors d'une conférence à Talé, qui avait dit que ça a été une très très grosse bataille, quoi. Alors la difficulté de retrouver des traces aujourd'hui, c'est qu'elle est peinte. Donc de faire des fouilles, c'est difficile effectivement avec les pins, parce qu'on pourrait retrouver des squelettes, etc. Donc voilà, donc c'est quand même difficile, mais on retrouve quand même les traces liées après effectivement au chemin de Compostelle. Mais cette bataille est passée. Alors elle est peu connue, je ne sais pas si vous la connaissiez, Diego Arrabal.
Non, pas du tout.
Voilà.
Mais j'ignore beaucoup de choses sur les nombreuses batailles qui ont pu avoir sur notre sol.
Heureusement que vous m'avez rejoint, heureusement que vous m'avez connu.
Ah oui, tout à fait, tout à fait.
Comment il vous fait ça, moi
Je pense que j'aurais parlé d'autre chose.
Voilà, donc ce qui est bien, c'est que votre roman commence donc par la bataille de Talé avec un jeune qui a son père effectivement qui est blessé et qui lui l'enjoint à continuer effectivement la bataille. On voit bien que on sait que cette bataille est extrêmement importante parce que c'est là que se sont jouées effectivement beaucoup de choses. Pourquoi être parti de la bataille de Talé? Parce que c'est loin des Comminges.
Par son importance, justement. Par son importance dans ce parcours viking en Gascogne. J'ai failli détailler, mais voilà, oui, ça a son importance, quoi. C'est ça surtout. Après pour en revenir plus à mon rôle à travers ce livre, si vous voulez, hormis le travail de Joël Supéry, si vous voulez, mon rôle dans ce livre a été d'imaginer comment les Vikings ont pu s'implanter, ont pu être accueillis, ont pu se mêler à la population. Voilà, c'est surtout ça. Après, un autre détail, le héros de mon livre que tu as cité, Philippe, au début du livre, se prononce Balint.
Ah, d'accord, ok.
En gascon. Pourquoi je l'ai nommé comme ça?
V, oui, c'est vrai, oui. Le alors, V se prononce B, oui, effectivement.
Je l'ai nommé comme ça, un clin d'œil à mon grand-père, mon regretté grand-père, qui, quand, lorsque j'étais enfant, m'appelait Balint. Il disait, qu'est Balint? Tu es vaillant.
Tu es vaillant, d'accord, ok.
Voilà, et c'est vrai, réellement un prénom qui existait à cette époque-là. Donc,
c'est réellement un prénom, d'accord, qui existait à cette époque-là. Et qui était un prénom, donc, comme un joie ou un prénom partagé?
Gascon.
Gascon, d'accord, ok. Ok, mais je l'ignorais. Comme quoi, je l'aurais appris. On apprend bien des choses.
On
apprend
plein
aussi
de choses. Et
c'est le rôle aussi donc de cette émission, de cette émission littéraire. Alors, vous aviez écrit un précédent roman qui s'est très 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 bien vendu.
Oui, il se vend très bien encore.
Voilà. Comment vous expliquez que les personnes à un moment donné qui vous lisent aient autant envie effectivement d'aller rechercher cette histoire qui est très lointaine? À quoi vous attribuez ça?
Je pense déjà ben, un peu de comment dire de fierté locale d'appartenance
ouais.
Et puis je pense que tout le monde est curieux de connaître son histoire, l'histoire de sa terre natale. Et oui, et le livre a très très bien pris, il a fait son chemin.
Alors on le rappelle, je l'ai pas dit le titre, c'est Le Silence des Garnix. Hein, donc le précédent roman qui continue effectivement à faire son chemin, ouais. Que vous proposiez il y a quelques semaines de ça, donc au Salon du Livre Pyrénéen, donc de Bagnères du Bigorre.
Oui, il concourait pour le titre de pour le prix. Voilà, malheureusement, il n'a pas été retenu. J'avais beaucoup d'espoir, mais voilà. C'est comme ça. Il faut accepter des fois.
Vous allez en écrire d'autres. Il y aura le prix à nouveau l'année prochaine. Donc...
La suite est en cours. Le tome 2 est en cours.
Bon.
Il y a eu beaucoup de demandes et... le premier se terminant par la fin de la guerre des Gaules, nous allons poursuivre avec la gallo-romanisation des Pyrénées centrales
et du Comminges
par la force des choses.
Alors, puisque vous en parlez, hein, vous avez eu droit à un article hein, dans la revue donc de février-avril 2023, le numéro 62, c'est les monstres celtes.
Les mondes celtes.
Le
Keltia Magazine. Ouais.
Voilà, de Keltia Magazine. Vous avez en page 12 donc un article. Alors, j'aime beaucoup l'accroche hein, qui a été donnée par le journal, hein, qui met les derniers Gaulois pyrénéens. Vous connaissez tous les irréductibles Gaulois imaginés par Uderzo et Goscinny, ceux qui ont réussi à résister à César dans leur petit village d'Armorique, l'Armorique étant donc en Bretagne. Partons à l'opposé, écrivent-ils, dans les Pyrénées, où nous trouverons les seuls qui n'ont jamais été vaincus pendant les invasions romaines, les Convennes et les Consoranis. Ça, c'est quelque chose que j'avais appris dans le précédent roman. Les tribus gauloises des Pyrénées n'ont jamais été vaincues.
Pas par la force.
Pas par la force.
Elles ont été soumises à la fin, mais... Pas par la force, elles ont pas eu besoin de combattre. C'est ce qu'on avait précisé l'autre fois. Bon, oui. Pour ceux qui n'avaient pas entendu l'émission, c'est vrai que c'est ma conclusion. Après, elle n'appartient qu'à moi encore une fois, mais elle est pas contre. On ne peut pas la contrecarrer parce qu'il y a aucune preuve de ça. Et César fait son tour d'Aquitaine en fin de guerre des Gaules et il s'aperçoit qu'il y a deux petites tribus qui ne sont pas soumises, dont les Convennes et les Consoranis. Donc les Consoranis, qui territoire du Couserans en Ariège, et les Convennes, la tribu comingeoise.
La tribu comingeoise, d'accord.
Voilà, donc ils ont été protégés par la météo en hiver, puisque le territoire
était... faisait froid à l'époque, ouais. Plus froid qu'aujourd'hui, oui.
C'était froid, très froid, les hivers très rudes, c'était
marécageux. Il y avait des neiges, c'était marécageux.
Voilà, et les périodes plus clémentes, ce sont les rébellions dans le nord qui empêchaient les Romains d'y accéder. Donc César découvre deux tribus d'irréductibles, malgré eux.
Alors, il faut le dire, moi, c'est pour ça que lorsqu'on avait fait, je me rappelle, la première émission, on a vu des gens qui nous avaient appelés,
oui.
Qui m'avaient contacté notamment sur Twitter, je me rappelle, je vous l'avais dit, pour me demander le titre, qui disaient, mais vraiment, c'est particulièrement intéressant, on est vraiment, donc des gens d'ici, hein, des gens des Comminges, des gens donc de la Bigorre, des gens du Béarn, disant, mais on est vraiment intéressés parce qu'on ne trouve pas forcément de livres, de romans. Qui en plus vont avoir un aspect historique donc réel et nous intéresser donc à nos origines. Et c'est ça que je trouve moi passionnant dans les romans que vous écrivez. Alors, vous êtes capable d'avoir des bien entendu des lecteurs et lectrices au-delà. Mais des gens d'ici qui ont envie de savoir d'où ils viennent. Est-ce que c'est le sens des romans que vous écrivez, d'écrire aussi pour les gens qui sont d'ici et qui ont envie de savoir à quoi correspondent les anciens vestiges gaulois et que vous, à travers ces romans, vous leur donniez une signification?
Oui, les gens sont très curieux de savoir d'où ils viennent. Ils se rendent compte qu'à travers mes livres, on connaît le sens du nom de son village, par exemple, ou d'une colline qui va surplomber son hameau. Voilà,
Alors,
donc
vous aviez donné l'exemple, par
je,
exemple, dans les
oui.
dans les Comminges,
Le pic du Cagir, notamment,
voilà,
voilà.
le pic du Cagir. Alors,
Le pic du Carige, du Cagir, qui signifie clairement en langue celte, Caioris. Donc Caioris, la levée de pierre face aux rivières, et c'est clairement le cas géographiquement, puisque le Cagir surplombe deux rivières, le Gers et le Job, qui s'inclinent face au roi Comminges.
qui s'incline face au roi comme un joueur. Voilà. Et en fait, dans ce précédent roman, mais aussi dans celui-là, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est au-delà de l'histoire, l'histoire, elle n'est pas déconnectée du réel. En fait, vous vous accrochez à la chair de l'histoire, hein, de ces régions, et vous donnez vie à un moment donné à des lieux devant lesquels on passe. Ça avait été le cas du premier roman. Je vous avais dit, mais il y a tout un tas de lieux, par exemple le Cagir. J'ignorais que le nom du Cagir venait effectivement du Celte. Et je trouve que c'est ça qui est bien dans ces romans, c'est que au-delà des personnages avec qui on est, alors moi qui plus est, ça m'a touché au départ par rapport à la bataille de Thalès, parce que c'est des choses, effectivement, c'est le village natal, c'est la terre de mes ancêtres, quoi, en plus, hein. Je veux dire, donc pour moi, ça a énormément de sens, de mes ancêtres maternels. Et c'est vrai que vous donnez à un moment donné du sens par rapport à ça. Sur les personnages, après. Comment vous faites pour arriver à construire ces personnages, notamment là, au départ de la bataille de Thalès? Vous faites des recherches historiques ou comment vous faites pour leur donner? Parce que on y croit, moi, quand on lit le début du roman, on y est dans la bataille.
Alors, j'ai déjà parlé après, d'ailleurs, si tu le permets, à notre à
Voyage insoupçonné, le trésor scandinave et l'Odyssée
mon recueil
d'Arwan,
de
toujours.
nouvelles, pardon.
D'accord.
Voilà. Grâce à ma compagne, j'ai une approche du monde viking, parce qu'elle est passionnée, elle parle par toutes
Qu'est-ce qu'elle fait,
les...
votre compagne,
Elle
Grégory?
travaille dans les écoles.
D'accord.
Elle n'est pas institutrice, mais elle travaille dans les écoles. Après, c'est quelqu'un qui lit beaucoup, qui est passionné beaucoup de choses, et c'est vrai que c'est elle qui m'a amené là-dessus, et je trouvais ça très fascinant, très instructif aussi, avec une mythologie peu connue et incroyable, qui n'a pas rougir devant celle de la Grèce antique, par exemple. Et donc j'avais quand même une approche plutôt bonne du monde viking, de leur façon de vivre, de leur habillement, de leurs croyances. Et donc j'ai eu une grande facilité à décrire des personnages.
Dans ce roman, Les Vikings en Gascogne, on sent bien déjà au travers du sous-titre, on sent bien que si vous étiez quelqu'un qui avait vécu à cette époque, que vous n'auriez pas eu une vision, je vais dire, agressive et hostile
Je sais pas. Je sais pas.
par rapport aux Vikings.
Je ne sais pas.
On a le
Là, tout de
sentiment
suite, je vous dirais que oui,
que,
mais...
voilà. Dans ce roman, et c'est important ça, hein, on le perçoit. Alors peut-être que vous vous en rendez pas forcément compte quand vous l'écrivez. Vous n'avez pas une vision hostile. Vous avez une vision de vous dire ces deux civilisations qui se rencontrent. Et qu'est-ce que la rencontre de deux civilisations peut donner?
Je pense qu'avoir vécu à cette époque, voir ces grands gaillards arriver avec l'image qui leur était collée déjà, ce n'est pas très très rassurant. Donc je pense personnellement que j'aurais peut-être pris
Une autre
mes jambes à
attitude.
mon cou. Hein. Mais c'est pour ça que dans l'histoire, Valente, le héros, c'est lui quoi, qui va amener ses comparses à être plus accueillant envers eux, quoi.
Et c'est ça, moi je trouve, à un moment donné, vous prenez un peu le contre-pied des invasions habituelles. C'est ça qui peut être surprenant et étonnant. C'est ça qui peut être surprenant et étonnant. Vous prenez un peu le contre-pied des invasions habituelles. C'est-à-dire, au bout d'un seul coup, vous dites plutôt que de dire je vais faire un roman avec des guerres, etc. Tout, on se dit bon, ben ok, c'est classique. Vous prenez le contre-pied. C'est voilà, on était en commun, j'ai une invasion. Qu'est-ce que ça a pu effectivement nous apporter? J'avais un prof d'histoire qui avait eu la même approche par rapport aux invasions romaines. Et pour dire, attention, les invasions romaines, les Romains n'ont pas fait que prendre. Par exemple, je me rappellerai de cet exemple qu'il nous avait cité, de dire que le fût, le tonneau, a été inventé par les Gaulois, que les Romains transportaient donc le vin dans les amphores, et qu'ils ont découvert que c'était les Gaulois qui faisaient déjà donc la tannification donc du vin, et qu'à un moment donné, cet échange avait eu lieu. Et qu'en fait, c'est pas une seule chose. Alors après, bon, il y a la guerre, bien entendu, il y a le fait que des civilisations se rencontrent, il y a la guerre, il y a les viols. Moi, pour tout dire, j'ai fait ma recherche ADN. En faisant ma recherche ADN, je me suis rendu compte que j'avais 5% d'ADN qui viennent du nord de l'Europe.
D'accord.
Donc, ce qui veut dire que il y a forcément eu un croisement entre certainement mes ancêtres maternels, mes côtés féminins. Et alors, après, consentement ou pas, je n'irai pas jusque-là. Je pense plus que ça a été effectivement des viols, hein, des femmes qui ont été violées. Voilà. Mais je retrouve dans mon ADN, effectivement, 5%. Alors, je dis, hein, faut pas trop le dire, parce que normalement, on n'a pas le droit de le faire. Je l'ai fait aux États-Unis. Mais ça veut dire à un moment donné, voilà, qu'on a tous, dans notre histoire, au travers du roman, et ça m'a renvoyé à ça quand je lis votre roman, qu'on a une part aussi de viking, qu'on le veuille ou non, dans l'histoire, effectivement, et dans le mouvement des populations. Diego Arrabal.
Oui, mais je pense que de toute façon, les invasions, quelles qu'elles aient été dans le passé, elles ont produit aussi un mixage entre les individus et qu'on est tous le produit de multiples rencontres fortuites ou forcées, mais on est tous le produit de multiples rencontres.
C'est tout. Alors, juste.
Ouais, et c'est ça qui est bien, c'est que moi, vous voyez, quand j'ai lu votre deuxième roman, comme le premier d'ailleurs, ça, enfin, surtout le deuxième, parce que le premier moins, étant donné qu'il y avait pas, qu'il n'y avait pas effectivement de cette invasion des Vikings, ça m'a renvoyé effectivement à cette recherche que j'avais faite donc au niveau ADN. Et j'ai été surpris sans vraiment l'être de voir qu'effectivement j'avais du sang viking. Au sein effectivement de ça. Et je me suis dit, bah, tiens, ça prouve bien qu'à un moment donné... Je suis un produit, alors après j'avais toutes les autres origines, hein, qu'il y avait, hein, notamment de par mon père dans l'Empire Ottoman, hein, enfin dans l'ancien Empire Ottoman. Donc voilà. Pour revenir à votre livre, bon, Gasking, les Vikings à Gascogne, parce que je vois, on me fait signe à l'intérieur du studio qu'il reste 3 minutes, hein, ça passe très très vite, hein, 25 minutes en termes d'interview. Grégory Chanfreau, Gasking, les Vikings à Gascogne, préfacé par Joël Supéry, donc aux éditions du Net. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans les semaines à venir, les salons où vous allez vous trouver pour aller à la rencontre effectivement de vos lectrices et de vos lecteurs, pour parler donc de ces différents livres? Donc je redis, Grégory Chanfreau, Gasking, les Vikings à Gascogne, préfacé par Joël Supéry, Le silence des Carnix, Voyage insoupçonné, le trésor scandinave et l'Odyssée d'Arwan, Grégory Chanfreau, ça c'est toujours aux éditions du Net, ce sont des nouvelles. Voilà. Et puis vous nous proposiez tout à l'heure, mais je suppose que là, c'est pas vous qui l'avez en vente, de Joël Supéry, préfacé de Michel Onfras, l'auteur sur lequel vous vous êtes appuyé, La saga des Vikings.
Sur mon Facebook, je tiens tout à jour. Donc,
Facebook, Grégory Chanfreau.
Grégory Chanfreau, auteur.
Donc Chanfreau, Grégory Chanfreau, auteur. Grégory avec un Y à la fin. Donc vous pouvez retrouver les dates, effectivement, des dédicaces à venir, celles de...
Salon du livre à la Barthe de Nest, le 1er week-end de décembre.
Voilà, Salon du livre à la Barthe de
Nest. La journée,
le
dimanche.
Premier week-end de décembre, c'est le dimanche, hein, c'est ça?
C'est le dimanche, en
effet. C'est le dimanche, voilà. On va vous laisser parce que cette émission est terminée. Merci beaucoup, Grégory Chanfreau, d'avoir été notre invité. Et on vous dit
merci,
à bientôt.
Eh bien, on vous dit à bientôt, Grégory, mais on dit à la semaine prochaine à nos auditeurs.
À nos auditeurs et nos auditrices. Et
nos auditrices aussi.
Nombreux et nombreuses. Allez, à bientôt.
Très bien,
Diego.
À bientôt.
Merci, au revoir.
Au revoir.